que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
La construction des immeubles pose un sérieux problème à Kinshasa et même dans certains coins de la RDC. Nous en parlons aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à intervenir avec vos questions et vos témoignages. Car l'année dernière, on a constaté dans la ville de Kinshasa qu'il y avait deux immeubles qui s'étaient effondrés. Et selon les dires de certains, les architectes semblent ne plus respecter les normes dans la construction de ces bâtisses. Nous avons justement un architecte avec nous dans ce studio, Deshaun Ngandou. Il est là pour nous éclairer un peu plus sur cette question. Monsieur Deshaun Ngandou, bonjour.
Bonjour, très bonjour Madame.
Nicole. Alors, pour commencer, est-ce que vous avez suivi cet incident, je dirais, qu'on a vécu dernièrement dans la capitale? C'était l'année dernière, hein?
Oui, vers la fin de l'année.
Qui s'est effondré. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Vous, en tant qu'architecte, essayez un peu de nous éclairer là-dessus.
Oui, effectivement, j'ai eu à intervenir en son temps par rapport à l'effondrement à la verticale de cet immeuble-là. Parce que j'étais aussi parmi le témoin oculaire. Quelques heures après l'effondrement, j'ai été alerté et puis je suis descendu comme tout architecte curieux pour savoir un peu qu'en était-il au juste. Vous vous rappelez qu'en son temps, on a fustigé en fait le comportement de maître de l'ouvrage. Maître de l'ouvrage, c'est-à-dire c'est celui qui est en face de l'architecte qui est le maître de l'œuvre, donc les clients, pour parler en termes très simples. À un moment donné, il a passé outre les instructions des architectes. Il en avait commencé avec un et puis après, il est allé outre les instructions et l'expertise de l'architecte. Il a commencé à évoluer à volo. Donc, nous sommes arrivés à ce que nous connaissons tous aujourd'hui, l'effondrement à la verticale dans 3 minutes d'un immeuble de 6 niveaux, si je ne me trompe pas.
Alors, pour éclairer ceux qui nous suivent, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'hésitent pas à construire, on va aller au fur et à mesure. Quelles sont les normes qu'il faut respecter, notamment dans le choix du terrain, d'abord, hein, avant toute chose?
Bon, au fait, le choix du terrain ne pose pas tellement un problème, parce qu'il y a un principe très simple. J'ai eu à le dire plusieurs fois sur le média. On peut construire partout, même dans l'eau. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faudra construire, avec qui et pour quelle finalité? C'est ça la problématique. Donc, peu importe le choix du terrain, mais il faut d'abord, au départ, chercher à aller vers l'expert en l'art de bâtir. Je parle d'un architecte, je parle d'un ingénieur, je parle de toute personne qui a pour compétence, soit innée ou acquise, l'art de faire tenir les ouvrages. Alors, lorsque on a pris langue avec l'architecte, on a exprimé son programme à l'architecte, il passe au dressement des plans. Et après avoir dressé les plans, je l'ai toujours dit, l'architecte n'évolue pas seul. Autour de lui, il y a des ingénieurs qui l'accompagnent dans cette noble tâche. Et il passe, là je suis dans les constructions importantes des immeubles, il passe aux notes de calcul. Les notes de calcul, c'est-à-dire on sait dimensionner chaque ouvrage, chaque partie de l'ouvrage, la poutre, les colonnes, les escaliers, ainsi de suite, la charpente, la couverture. On sait savoir que ici, par rapport à telle sollicitation, telle autre sollicitation, ça va tenir ou bien ça ne va plus tenir. Et qu'est-ce qu'il faudra mettre comme matériaux, acier, ciment, tout ça? Ça constitue ce qu'on appelle les notes de calcul, d'une façon brève. On ne se termine pas, on ne s'arrête pas là-bas. Il faut aller vers des laboratoires. Sur la ville, il y a des laboratoires qui font ce que nous appelons les études du sol. Les études du sol permettent de déterminer avec beaucoup plus d'exactitude l'importance du sol, c'est-à-dire la capacité du sol à pouvoir supporter tel ou tel autre bâtiment. Un bâtiment, c'est un ouvrage, il a un poids, il exerce ce poids-là sur le sol. Alors, est-ce que ce sol-là est en mesure de supporter les bâtiments? C'est ça la problématique. Et les études du sol
donc
vous donnent
le résultat. Donc, le choix du terrain est important.
Le choix du terrain, je reviens, il n'est pas tellement important. Parce que, quel que soit le terrain, on peut construire.
Mais il faut le connaître.
Il faut le connaître. Mm. Il faut le connaître, il faut s'y prendre avec les gens qui peuvent vous aider à mieux identifier ce qu'il faudra mettre sur ces terrains-là.
Donc par là, vous voulez dire que si vous voulez construire, ceux qui nous suivent maintenant à travers le pays, s'ils veulent construire, ils doivent recourir d'abord à un architecte.
C'est ça la première des choses. Il faut commencer par là.
Même si ça a un coût, hein. Il faut recourir d'abord à un architecte. On ne peut pas construire comme ça sans recourir à un architecte.
On dit qu'il s'agisse d'un studio ou d'une cathédrale. Les studios, vous voyez, je vois un local de 4 mètres carrés. Ou d'une cathédrale, je vois une construction en fait colossale. On a toujours dit, ça c'est depuis la nuit des temps, qu'il s'agisse d'un studio ou d'une cathédrale, il faut toujours faire intervenir l'architecte. Mmh. Donc vous comprenez qu'il a un rôle très important dans tout ce qui est comme construction, art des bâtis.
Alors quelles sont les différentes étapes dans la construction d'une maison ou d'un immeuble?
Oui, là, je reviens à ce que j'étais en train d'expliquer. Une fois, je me situe toujours dans des constructions importantes parce que... ce qui a fait parler toute la ville l'année passée, c'est l'effondrement de cet immeuble-là, de 6 niveaux. C'est pour ça que je voudrais me situer dans ces contextes-là. Alors, une fois qu'on a les études des sols, en ce moment-là, on peut s'élancer dans la construction. Parce que vous avez les fondamentaux, vous avez les garanties nécessaires qui vous permettent de pouvoir évoluer, et vous avez des assurances. Sans cela, donc, vous êtes en train de mettre en place... un monstre qui, un jour, peut se retourner contre vous.
Donc, il faut y aller au fur et à mesure. Pour commencer, j'imagine qu'il y a d'abord la fondation. Hein. Est-ce que ça demande vraiment, je dirais, une sélection? Est-ce que ça demande des matériaux bien précis par rapport à ça?
Bon, en fait, le commencement de toute chose, c'est la fondation. Donc, comme dans la vie, dans tout ce qu'on entreprend, si la fondation n'est pas solide, si elle n'est pas stable, si elle n'est pas rigide, c'est-à-dire que tout ce qui va venir par la suite n'a pas longue vie. Donc pour qu'une fondation soit stable et rigide, il faut qu'elle soit conséquente. Cette conséquence-là, c'est quoi? Qu'elle soit faite en tenant compte du poids de l'ouvrage, de sa destination. C'est-à-dire que si vous voulez construire un studio, vous devez avoir une fondation appropriée au poids d'un studio. Si vous voulez construire... un bâtiment gratte-ciel, vous devez avoir une fondation appropriée à cela.
Et pour un immeuble, qu'est-ce qu'il faut avoir concrètement?
Il y a plusieurs types de fondations. Ici, vous m'amenez à entrer dans une dimension académique. Je voudrais être terre à terre avec ceux qui nous écoutent.
Allez-y.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de fondations, mais ces fondations sont liées à la nature de l'ouvrage. Donc, au type de construction qu'il faudra mettre et à l'endroit où il faudra aussi mettre cette construction-là. S'il s'agit par exemple de construire dans l'eau, vous n'allez pas en fait commencer avec des moellons dans l'eau. Vous allez peut-être faire des pylônes, des piliers, et puis peut-être couler de l'engrine. S'il s'agit de construire sur un tel sablonné, il y a des types de fondations appropriées à ces sols-là. S'il s'agit d'un sol argilé ou d'un sol marécagé, à chaque sol, à chaque type de sol correspond un type de fondation appropriée. C'est ce qui fait que, une fois que ces principes-là sont respectés, la suite, c'est-à-dire l'élévation, et après l'élévation, le plancher, la couverture, même les travaux de finition, c'est-à-dire que ça a une certaine stabilité, une certaine garantie, d'autant plus que la fondation qui constitue la base, les soubassements, est solide.
Vous parlez tellement bien hein, que je risque de me laisser emporter par vos propos. Allez, je vais donner la parole aux auditeurs qui nous écoutent et qui réagissent déjà. Nous avons Rachel Ndjounjou depuis Isiro en province orientale. Rachel, vous êtes en ligne. Quelle est votre question?
Allô, bonjour.
Bonjour Rachel.
Oui, j'ai des petites questions à poser à l'invité, mais avant de la poser, je ne m'inquiéterais pas exprimer mes sentiments. C'est vraiment pour moi un grand plaisir d'avoir une voix féminine présente de cette émission aujourd'hui, l'émission Vocati Service.
Merci. Mais, allez-y, Rachel.
Madame, pardon. Oui, j'avais des petites questions. La première, de savoir l'architecte à question, je peux massacrer le monde.
Non.
On les trouve, où peut-on aller les chercher? Si on veut, par exemple, les voir, si on a quand même la volonté, vous pouvez chercher cette personne. Et ma deuxième question est de savoir, parce que ce qu'on a vu à Kinshasa, il y a une maison, donc des maisons qui sont détruites, pardon. Et alors, je veux savoir si une maison était déjà construite. Comment saurez-vous que ces gens-là n'ont pas respecté les normes de la maison, mais la maison est déjà construite?
Ok, il va réagir, notre invité va réagir tout à l'heure à vos préoccupations. On passe directement à Ogi Bendelo depuis qu'il quitte. Ogi ? Allô, Ogi, vous êtes en ligne ? Bon, on a des petits soucis avec Ogi. Je crois qu'il ne nous entend pas. Hein. Ogi, vous êtes avec nous ? Non, décidément, il ne nous entend pas. On passe à Passion Paul depuis Kinshasa. Passion ? Votre question ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Ainsi qu'à l'invité.
Merci beaucoup.
Oui, un constat que j'ai toujours fait, c'est que nos investisseurs congolais veulent le moins cher. À la classe des ingénieurs qualifiés sortis dans des grands centres de formation et même universitaires. Tellement qu'ils exigent aux ingénieurs de la rue. C'est pour cela que nous enregistrons beaucoup de dégâts. Prenons l'exemple donc en Mougemaï. Il y a des maisons inachevées suite à des projets non accomplis. Parce que le plan de l'édifice a été imposé. Vous verrez les patrons changer les ingénieurs comme s'ils n'envisageaient pas le danger. Cette équipe qui parvient à terminer un étage de 4 niveaux pour 7 ans. Ceux qui ont commencé le plan terminent sur papier. De la fondation aux colonnes, prennent leur butin et répartent ainsi de suite. Maintenant, à l'invité, si l'État prenait ses responsabilités, en ce qui concerne la construction comme il le fait pour les routes, dès que le dégât se présente, lui-même assume la tâche. Au lieu d'autoriser ces constructions qui ne profitent qu'à son auteur et endeuiller plusieurs familles, après qui va les dédommager? Voilà un peu mes constats. Et puis donc aussi l'invité peut me donner donc quelques...
Merci Passion Paul pour votre contribution à cette émission. Directement, on passe la parole à Deschamps Gandou. Vous avez suivi, hein, en tant qu'architecte, vous avez suivi les préoccupations de Rachel Passion depuis Kinshasa. Comment vous réagissez par rapport à ça?
Ok, merci beaucoup. Je commence par Passion qui a dû intervenir en dernier. Je m'inscris en vrai aussi au constat des patients.
Ils sont très chers, hein, les architectes.
En fait, les architectes ne sont pas trop chers. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que l'architecte, il est flexible. Il n'a pas pour mission de chercher l'argent, mais d'accompagner les gens qui manifestent cette volonté-là, de pouvoir établir leur construction et embellir la ville aussi. C'est un acteur de l'embellissement de la ville. C'est quelqu'un qui est appelé à créer une vie à partir du néant. Donc pour cela, il doit se mettre à la portée de toutes les classes sociales.
Mais Patient a dit, il a donné un élément important. Il dit que l'architecte se limite à faire un plan et puis après, il attend son but. Hein, je reprends ses mots et il s'en va.
En fait, ça dépend des contrats qu'on a avec l'architecte. C'est une des missions. Il peut se limiter à faire le plan. Et s'il n'a pas eu la mission de faire le suivi contrôle de l'exécution, quelqu'un d'autre ne doit pas le faire. Mais il faudrait qu'il ait qualité. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aussi renouveler la mission avec l'architecte pour le suivi contrôle. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on constate seulement? On s'est dit peut-être que non. Le passage peut-être pointillé de l'architecte de manière spontanée, on s'est dit que non, il est là pour une heure du temps, il ne fait rien. C'est là qu'on s'est fait d'illusions. Mais les indications, les orientations qu'il donne et les suivis qu'il respecte et qu'il fait respecter au quotidien, c'est ça qui fait tenir l'ouvrage. Ce n'est pas l'exécutant ou plutôt son auxiliaire qui est là du matin au soir, qui passe des temps à longueur de chantier. Ça, ce n'est qu'un exécutant. Donc il y a des ordres, là, des instructions qui viennent de l'architecte qui est le maître de l'œuvre parce qu'il a conçu l'œuvre. Avant de pouvoir l'implanter, il a réfléchi là-dessus pendant des semaines, des mois et des années. Et puis il a réunit toutes les conséquences et après il a donné l'aval, le feu vert pour que les travaux commencent. Mais lorsqu'on les néglige, c'est là qu'on commet l'erreur.
Lorsqu'on le néglige, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que lorsqu'on estime que sa mission se limite par dresser les plans et que le suivi contrôle, vous-même pouvez le faire. C'est ce que nous enregistrons, les cas de l'immeuble.
Donc il faut continuer à garder l'architecte jusqu'à la fin des travaux.
Non seulement jusqu'à la fin des travaux, jusqu'à l'implantation même de la pelouse. Donc je vais plus loin. Mmh. Clé sur porte, on définit la mission de l'architecte comme ça. C'est-à-dire que suivi contrôle de tout peinture y comprise, et je vais même plus loin pour dire que jusqu'à l'aménagement.
Rachel vous a posé une question tout à l'heure.
Oui.
Où est-ce qu'on peut recourir? Comment on peut vous contacter? Je crois que c'est ça sa question.
Oui, je comprends. Bon, en fait, je fais un métier assermenté, c'est-à-dire sans publicité. Je ne vais pas donner mes coordonnées à Rachel. Mmh. Rachel peut contacter Madame Nicole qui est en face de moi. Madame Nicole mettra en contact avec Rachel et on peut faire l'affaire.
C'est noté, hein, okay. Des choses gazou. Alors, poursuivons notre entretien. Aujourd'hui, il arrive qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller construire, on le constate hein, de plus en plus, à Maluku, du côté de Kinkole, ou encore du côté de Kingabwa. Est-ce que c'est recommandé d'aller construire là-bas, sur ces sols? Est-ce que c'est recommandé?
Bon, ça aussi, c'est une autre dimension de la chose. Nous entrons dans ce que j'appelle l'architecture à grande échelle, l'urbanisme, la construction des villes. Vous savez, autant qu'on construit une maison, autant on construit aussi une ville. Dans la ville, avant qu'on la construise, on la dessine aussi. Alors, les dessinateurs de la ville, qui sont les urbanistes, qui sont les architectes, qui sont les ingénieurs topographes, qui sont tout ce qui entre en ligne des comptes dans l'aménagement, plutôt dans la conception d'une ville, établissent un premier document qu'on appelle le plan directeur d'une ville, c'est-à-dire les grandes lignes. On dit ici, il y a un grand boulevard qui va passer par ici, ici on va mettre ceci, ici on va mettre cela. Et puis à côté de cela, il y a ce qu'on appelle les plans d'occupation de sol. Les plans d'occupation de sol déterminent avec précision que dans ces quartiers, on ne peut pas, par exemple, construire des maisons d'habitation. Pour la simple et bonne raison, par exemple, que c'est un quartier marécagé, ça va coûter cher, ça va faire ceci, ça va se l'air, ça ne va pas rendre la vie agréable.
Là, vous parlez de Kingabwa.
Je suis dans le général. Mais plutôt, à la place, on peut construire ceci, on peut construire cela, on peut construire ceci. Je prends par exemple, on trouve un quartier sablonné. On dit, bon, c'est un quartier sablonné, il n'est pas interdit de construire, mais ici, pas tel type de construction. On peut aménager un aéroport dans un quartier sablonné.
Mais à l'endroit au but, puisque vous êtes architecte, vous êtes expert, vous avez certainement eu à construire des maisons dans ces quartiers qu'on a eu à citer, Kingabwa, dans la commune de Kinkole, Maluku, vous avez déjà eu à construire des constructions là-bas.
Oui, effectivement, il y a des quartiers, des zones de non-édificandis, c'est-à-dire des zones où on ne peut pas construire des maisons d'habitation. Mais curieusement, vous savez, nous sommes dans des situations où les choses ne vont toujours pas dans le sens que l'État l'exige. Vous avez entre guillemets des conservateurs qui procèdent au lotissement de ces quartiers-là et qui permettent aux gens de construire. Évidemment, il y a des quartiers où il ne faudra pas construire, mais on a construit. Et ça, c'est ce qu'on appelle les occupations anarchiques. Et vous voyez à travers la ville, vous voyez comment on est en train de raser. Parce qu'on a construit là, il ne fallait pas construire. Les longs des rails, par exemple, ce ne sont pas des zones où il faudra construire. 15 mètres à gauche, 15 mètres à droite, d'un chemin de fer, on ne peut pas construire.
Alors, soit encore plus concret, est-ce qu'aujourd'hui, on peut construire un immeuble à Maluku ou à Kinkole?
En fait, si le plan d'occupation de sol le permet, on peut construire. Parce que tout Maluku n'est pas destiné à des équipements socio-économiques ou plutôt socio-communautaires. Il y a aussi des trams assainis qui ont établi que non, là, on peut construire des maisons d'habitation.
Vous êtes très suivi, hein, des Shungandou. On le constate parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et on va leur donner la parole dans un instant.
Merci beaucoup.
Propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Albert Mwananga Kananga Kasai Occidental, vous êtes justement l'une des premières personnes à intervenir. On vous donne la parole. Allez-y.
Oh, bonjour, madame la journaliste. Bonjour à notre invité et à tous les invités de Radio Okapi.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Albert.
Merci beaucoup. J'ai deux préoccupations à poser à notre invité par rapport à ce sujet du jour tellement intéressant. Et la première question, c'est de savoir quels sont les critères qui peuvent être mis en place pour assurer une bonne construction, surtout à travers nos provinces? Ça, c'est la première question. La deuxième, il arrive des fois que l'État libère les terrains où il ne faut pas vraiment construire. Et les terrains vraiment tellement dangereux, mais l'État est responsable de donner ça. Comme État responsable, et puis j'aimerais poser la question de savoir là-dessus, alors, quand il libère les terrains où il ne faut pas construire, qui est responsable en cas de conséquences? Et comment remédier ce genre de phénomènes? C'est ça,
merci beaucoup. On passe directement à Ismaël Mumpoi à Lubumbashi, au Katanga. Ismaël?
Bonjour, Nicole Kogendi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Katanga.
C'est Nicole Ngaka.
Oui. Ma première préoccupation était celle de savoir réellement quand un architecte donne son plan et qu'on construit un immeuble. La garantie de cette maison peut être de combien d'années, combien de mois? Et quelles peuvent être les conditions sur cet immeuble entre en danger et en porte de vie humaine? Et si ça encombera, celui qui pourrait endommager, ça sera un technicien ou le propriétaire de l'immeuble. La deuxième préoccupation, c'était une préoccupation seulement, et c'est des différentes constructions, différentes autorisations de bâtir. Sur un Sendoué, sur l'avenue Sendoué, coin Kassai, plutôt Kassai, on avait déjà construit une maison. En plus, nous avons vu, on n'a élevé pas le musulman jusqu'à un tel niveau. On ne sait pas. Parce que quand on veut construire, il a fallu construire et on dit que l'État viendra maintenant autoriser. C'est ça encore une des difficultés que nous rencontrons. Sur l'avenue du métier, sur les communes Kampemba, la commune Kampemba, il y a une église qui était construite en bas. Mais après quelques jours, c'est une église qu'on habite chaque dimanche. Mais après un jour, je l'ai vu, cette église élevée au niveau de l'État. Je me suis demandé, moi, si j'étais l'État, je devais poursuivre ce genre de personnes et les amender et les interdire, soit démolir complètement ça. Maintenant, la question qui se pose,
allez-y,
qui peut être en fonction des contrôles à chaque construction et à chaque autorisation, et juste que si on a déjà autorisé, et qu'on peut faire combien de suivis si c'est une maison, par exemple, à 3 ans. On peut faire combien de tours pour la suivi pour finir par l'importation de vie humaine? Merci beaucoup.
Merci à vous, Ismaël. La Guiloua Kalemi, Katanga également, vous avez une question?
Oui, merci. Hein. Voilà, ce n'est pas une seule question. J'ai à moins 3 questions à ça, mais merci. Bonjour, Nicole Ngaka. Bonjour à l'invité et à toute l'équipe de l'Okapi Sevi.
Bonjour, monsieur La Guiloua. Oui.
Merci. Voici la première question, c'est une. Bon, quels sont les critères de la construction que toutes les villes de la RDC peuvent adopter pour avoir de meilleures villes et qui peuvent représenter aussi le Congo en tant qu'un bon pays? La deuxième préoccupation, comme la ville de Kalemi, c'est une ville montagneuse, il y a beaucoup de collines et de montagnes, nous voyons les canons, les canevous de la Safrica ici, ces canevous sont chaque jour débouché et que l'eau VD est trop dérangée suite au sable qui débouche un peu ce canicou. Est-ce qu'on peut faire, quelles sont des actes plutôt qu'on peut trouver dans notre pays pour que la vie des Kalemi soit aussi améliorée?
Merci.
La première, la troisième préoccupation et la toute dernière préoccupation.
Allez-y rapidement.
Hein. Si par exemple dans un milieu, il n'y a pas un architecte, on va recourir chez qui peut donner un bon plan de la construction dans une ville. Voilà mes trois préoccupations, Nicole Ngaka. Voilà, bonne suite de l'émission.
Merci beaucoup, La Guiloua. Allez, on va donner la parole à notre invité. Je rappelle, il s'appelle Desho Ngandou, il est architecte. Et vous pouvez toujours continuer à réagir au 081-890-63-79. Desho Ngandou, 3 préoccupations de nos auditeurs. Vous commencez par laquelle?
La dernière, monsieur La Guiloua, je voudrais tout simplement lui faire voir que ses préoccupations sont beaucoup plus du domaine d'assainissement de la ville. Ce n'est pas le sujet du jour. Je crois qu'en aparté, nous pouvons échanger amplement là-dessus. Mais simplement pour l'aider à obtenir l'architecte, si dans un coin il n'y a pas un architecte, il doit savoir que l'architecte s'importe et s'exporte aussi.
C'est-à-dire?
J'espère qu'il a compris.
Non, moi, j'ai pas compris.
Donc, vous pouvez faire inviter un architecte
d'accord.
pour venir travailler et rentrer dans son coin. Donc c'est pas impossible.
Donc le prendre carrément en charge, vous payez l'avion pour lui et tout ce qui va avec.
Il y a des contrats appropriés pour cela. Okay.
Ça demande beaucoup de moyens.
Bon, ça...
Albert Munanga, qu'est-ce que vous allez dire à Albert?
Il parle des critères, je crois que c'est ce qui a fait l'objet de notre émission de le débit. S'il nous a suivi, il a compris que plusieurs fois, chaque fois que j'interviens, nous parlons toujours des critères.
Mais la répétition est la mère des sciences, non, dit-on?
Évidemment, les critères, c'est très vague. J'ai parlé qu'il faudra au départ une bonne construction, c'est la fondation qui est solide, qui est étudiée par les experts. C'est une démarche où il a associer les experts de l'art de construire, l'architecte en priorité, qui ne fait pas ses travaux seul, qui s'accompagne de tous les autres ingénieurs pour la réussite de l'ouvrage.
Tout à fait.
Il parle de l'État qui libère de terrains et puis des terrains problématiques. Un État sur rien ne libère jamais de construction comme ça. Ce sont des prédateurs, entre guillemets, les conservateurs, peut-être d'une manière mafieuse qui libère des terrains. Parce que l'État ne peut pas aujourd'hui libérer les terrains et demain venir raser. Donc ce n'est pas un État responsable. Donc un État responsable ne libère jamais, c'est de l'anarchie. C'est pourquoi il faut être prudent avant de pouvoir se lancer dans une construction pour voir est-ce que cet endroit est permis. Il faut aller voir le ministère des Affaires foncières. C'est là qu'on s'est trouvé que non, à cet endroit-là, il est bel et bien déterminé qu'on va lotir et qu'on peut construire.
Vous avez aussi parlé d'un laboratoire. Il faut consulter les services d'un laboratoire.
Non, les laboratoires, c'est une fois qu'on est déjà propriétaire et qu'on veut se lancer dans une construction importante. Là, il faut faire recours au laboratoire. Je ne vais pas faire de la publicité gratuite ici pour citer tel laboratoire à travers la ville, mais il y en a. Et vous recourez à ces laboratoires-là, ils vous font des études.
Et c'est où
sols.
Exactement dans ils ont des bureaux précis?
Il y a des laboratoires. Permettez-moi de dire que l'Office des routes, c'est un laboratoire.
D'accord.
Safrica se fait des études des sols. La faculté de polytechnique de Kinshasa fait les études des sols. Il y a des privés qui ont des bureaux, qui ont des laboratoires, qui font des études des sols aussi. Vous m'avez amené à faire
c'est
de la
important.
Publicité.
Oui, mais c'est important de le préciser. On est là aussi pour rendre service à ceux qui nous suivent.
Ok, merci beaucoup. Monsieur Ismaël...
Oui, mais avant de passer à Ismaël, il y a une précision qu'a apportée Albert dans sa question. Il dit, quand un architecte donne son plan, est-ce qu'il y a des garanties?
C'est Ismaël qui a parlé plutôt de la garantie.
Oui.
L'architecte étant le maître de l'œuvre, il a une responsabilité pénale de 10 ans, et il a une responsabilité morale de 100 ans. 10 ans, une responsabilité pénale, lorsque vous avez été le maître de l'œuvre d'une construction et que vous avez commencé cette construction-là jusqu'à la fin, clé sur porte, j'insiste, vous avez commencé une construction et vous l'avez achevée. Là, vous portez la responsabilité décennale de 10 ans. C'est-à-dire que s'il y a des malfaçons dues à une erreur de l'architecte, il l'endosse. C'est-à-dire qu'on peut le traduire en justice pour cela. C'est des cas qu'on a vus dans l'environnement urbain à travers le monde. Mais il y a une responsabilité morale de 100 ans. C'est-à-dire qu'au-delà des 10 ans, lorsqu'il s'établit que non, voilà, ce bâtiment, cette construction est en train, par exemple, de s'effondrer à cause de négligence de l'architecte, là, au-delà des 10 ans, on ne sait pas le traduire en justice. Mais il porte une responsabilité morale. Et je l'ai toujours dit, la responsabilité morale tue plus que la responsabilité pénale. Parce que toute votre vie, jusqu'à l'enterrement, on ne cessera pas de vous indexer du doigt. Ça, c'est l'architecte qui est le maître de l'œuvre d'une construction que vous voyez qui est en train de s'effondrer. Ça, c'est l'enfant de l'architecte qui a fait ceci. Ça, c'est la femme, l'épouse de l'architecte qui a mal construit. Ça, ce sont les arrière-arrière petits-fils de l'architecte qui a... Vous comprenez que vous mourrez avec vos erreurs, comme on dit que l'architecte meurt avec ses erreurs. Mais par contre, le médecin peut l'enterrer.
Aujourd'hui, à travers le pays, tout le monde veut construire un immeuble. Hein, il y a un auditeur qui l'a dit tout à l'heure. Il y a un pasteur qui construit son église et puis quelques mois après, on constate que l'église se transforme en immeuble. Donc, il y a plusieurs étages. Est-ce que automatiquement, on peut évoluer dans ce sens-là?
On ne peut pas évoluer dans ce sens-là. Là, on est en train de flouer l'État. Parce que c'est l'État qui donne l'autorisation de bâtir. L'autorisation de bâtir, quand vous l'obtenez, c'est-à-dire qu'on a déposé les plans. Les plans indiquent que non, c'est un hôtel. Et il y a les services de l'État qui passent pour vérifier si effectivement ce qui s'est construit, c'est ce qui a été présenté auprès des instances de l'État. C'est ce qu'on appelle les suivis de l'État. Alors si, chemin faisant, on fait un virage pour commencer à faire autre chose, on arrête. Parce que vous n'êtes pas en train de reproduire ce que l'État va... pour comme document. C'est l'État.
C'est l'État qui doit faire
c'est
ce travail.
C'est l'État qui est souverain qui doit faire ce travail-là.
Oui. Mais... peut-être que vous allez éclairer davantage Trésor à Kananga, dans le Kasaï occidental, et Jano, à Lubumbashi, dans le Katanga également, qui ont des questions, j'imagine, et des témoignages peut-être. Trésor, vous êtes le premier à intervenir. Allô, Trésor ?
Oui, allô, bonjour Nicole, bonjour à l'invité.
Bonjour.
Bonjour, Trésor.
Oui, ma préoccupation est la suivante. Ici à Kananga, il y a une opération qui s'effectue. Bon, il y a ces ingénieurs-là, ils font la construction. Il y a déjà une maison construite, il y a de cela 10 ans, 15 ans. Hein, les ingénieurs viennent, vous verrez que la maison qui était construite, qui n'était pas en étage. Et après un temps, on construit cette maison-là en étage. Vous verrez 3 niveaux, 4 niveaux. Et je ne sais pas s'il y a une étude profonde, soit qu'il y a une étude spécialisée pour l'étude de la fondation. Parce que l'invité nous a parlé que non, la fondation est comme le sous-bassement de la maison, soit de la construction. Et je ne sais pas, dans cet état de l'histoire, je ne sais pas quelles sont les conséquences qui peuvent subvenir après cette construction de cette maison en étage. C'est ça ma préoccupation.
Merci, Trésor. Jeannot, vous êtes également en ligne. Vous avez un témoignage, peut-être ?
Oui.
Allô, Jeannot ?
Je salue madame.
Oui, bonjour.
À notre invité.
Bonjour, monsieur Jeannot.
Bonjour. Je voudrais savoir un peu de cadastre de l'humanisme. De quelle façon ils travaillent, parce qu'on ne sait pas quand ils distribuent le terrain. Est-ce qu'ils prévoient que s'il y aura une école, ici il y aura la police, ici il y aura l'église, on distribue tel-mêle. Sur l'avenir, on construit une maison, après on dit construction anarchique, on commence à démolir une maison. Mais l'État l'a d'abord fait, on construit une maison, après l'État vient de l'église pour détruire. Bon, est-ce que les ingénieurs qui sont aujourd'hui sur le bassin, est-ce qu'ils étudient le sol pour dire le bâtiment que nous allons donner à la population, est-ce un endroit solide où on peut construire des maisons? Est-ce qu'ils ont des laboratoires pour étudier le sol, comme M. Lezéna vient de le dire, ou ils le utilisent parce qu'ils ont envie de distribuer les terrains où les gens ont besoin d'avoir des maisons?
Ok, on va répondre à votre préoccupation. Tout de suite, on passe à Joseph, c'est le dernier, hein, je crois, pour cette intervention. Joseph, depuis Kindu au Maniema, on vous écoute.
Oui. Ma préoccupation est la suivante. Je viens voir la précision sur les écrits que nous retrouvons sur les murs. On voit, on écrit, cette parcelle n'est pas à vendre. Souvent, même sur des terrains à construire, cette parcelle n'est pas à vendre. Ça veut dire quoi, cela, ce qu'on est en train d'écrire? Je viens voir vraiment des précisions et savoir aussi, est-ce que c'est légal ce qu'ils sont en train de faire?
Oui, bon, là, je crois que vous êtes un peu hors sujet, hein, parce qu'on parle des critères de construction, n'est-ce pas? Allez, on va en parler peut-être prochainement, hein, par rapport à ce que vous avez posé comme question. Merci à tous ceux qui ont eu à poser des questions à notre invité, on lui donne la parole.
Monsieur Jeannot et Monsieur Trésor.
Oui, Monsieur Deschaux, Gando, allez-y.
Ok, je voudrais commencer par Monsieur Jeannot qui parle de distribution de sols et on ne voit que de maisons, c'est en quelque sorte. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de lotir un quartier ou une agglomération, on ne voit pas des écoles, on ne voit pas des marchés, on ne voit pas des centres de santé, des terrains de foot, des espaces de loisirs. Il dit, est-ce que c'est normal, si j'ai bien compris? Je voudrais tout de suite là lui dire que ce n'est pas normal. Et si vous trouvez un lotissement comme ça, ou une agglomération comme ça, donc il faut certainement se dire que non, l'État n'y a pas mis son regard.
Il y a un problème.
Ou s'il y a un regard, c'est un regard flou. Parce que la ville, c'est quoi? C'est la sommation des agglomérations, des quartiers. Et qui dit une agglomération, une ville, il voit l'habité, le travail, la circulation, le loisir. Vous ne pouvez pas, au fait, faire un lotissement sans tenir compte qu'il y aura des enfants et ne pas prévoir l'espace pour construire ne fût-ce qu'une école maternelle. Pourquoi vous devez permettre à un enfant d'une école maternelle, de parcourir 500 mètres pour aller à l'école.
Donc là, l'État a failli à sa mission, quelque part.
Je me réserve de dire que si l'État a failli, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur les dos de l'État, alors qu'en réalité, l'État n'y est même pas. Alors, c'est-à-dire qu'on doit tenir compte de ça, ça s'appelle les équipements socio-communautaires. Il faut des marchés, il faut des centres de santé, il faut une église. Parce que la morale des gens...
Mais il faut un plan, on a un plan par rapport à tout ça.
C'est ça.
Oui.
L'État établit un document Dans le schéma directeur, il y a un autre plan qu'on dit le plan d'occupation des sols. Ici, on dit dans ces quartiers, à tel endroit, il faut un centre de santé. À tel endroit, il faut un marché. À tel endroit, il faut une école.
Et ce plan-là existe.
Ça doit exister.
Normalement, dans toutes les villes de la RDC.
C'est ça l'idéal, oui. C'est ça l'idéal, parce que le Belge en fait ce travail-là. Et nous avons le service, le BAI, Bureau d'études d'aménagement urbain, qui fait ce travail-là. Tous les jours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'improviser, aller n'importe où et puis commencer à construire sans savoir qu'est-ce qui a été destiné à cet endroit-là.
Tout à fait.
Et lorsque plus tard, 10-15 ans, on vient raser, on s'est dit non, voilà, on a rasé, alors que l'endroit était destiné à accueillir autre chose.
Rapidement, Jeannot et Joseph.
Là, je répondais à la préoccupation de Jeannot. Trésor va parler d'une maison qui a commencé à plein pied, et puis après on voit des ingénieurs, des architectes qui viennent, qui commencent à ajouter un, deux, trois, quatre niveaux.
Il revient sur la question qu'on vous a posée d'ailleurs.
Oui, c'est-à-dire qu'il dit, mais est-ce que c'est normal ou il y a des études particulières, tout ça. En fait, je vais dire que l'architecte, ou plutôt l'ingénieur, est appelé à avoir une grande capacité d'anticipation des choses. C'est-à-dire que lorsque les clients me demandent de lui faire un plan d'une maison, par exemple, des niveaux, je sais un peu de voir l'avenir en sa place. Je dis, mais si, par exemple, plus tard, il arrivait qu'il ait des moyens et qu'il n'a pas d'espace à gauche, à droite, devant et derrière, qu'est-ce qu'il peut faire? Je lui donne la possibilité d'ajouter au-dessus. Mmh. Alors moi, dans mes études, avec mes complices, nous essayons de faire en sorte que cette fondation puisse se supporter deux ou trois niveaux plus
tard.
Mais
il y a toujours des ingénieurs ou des architectes un peu véreux qui malheureusement ne le disent pas à leurs clients, j'imagine. Hein.
En fait, il faut un dialogue, une dialectique ouverte entre l'architecte et son client. Ce sont des partenaires, c'est un partenariat. Il ne faut rien cacher à son client, il faut tout lui dire. Pour que même si vous n'existez pas, que quelqu'un qui peut venir plus tard puisse savoir que donc, voilà, les notes des calculs qui ont été élaborées pour cette construction, prévoit que je vais pas ajouter deux ou trois niveaux. Donc, on peut procéder au renforcement. Si cela n'était pas prévu, on peut procéder au renforcement, mais il y a des limites. Vous ne pouvez pas aller au-delà des limites que le sol, ou plutôt la structure existante, vous impose, sans quoi vous allez induire votre client en erreur.
Merci beaucoup, Décho. Ngandou, on rappelle que vous êtes un architecte dans la ville de Kinshasa. Merci d'avoir été des nôtres. On vous retrouvera certainement prochainement.
Merci beaucoup, Nicole. C'était un plaisir pour moi aussi de partager ces moments avec vous.